Le crabe tambour, Pierre Schoendoerffer, extrait. Chapitre 21. Le renégat. Trois jours plus tard, l'Éole entre en bassin pour un grand carénage. Les deux tiers de l'équipage sont logés à terre ou envoyés en permission de longue durée. Rien n'est plus triste qu'un bâtiment désarmé. C'est grisâtre, sale et froid. La coque est tachetée de minium, comme un saumon. Le pont, encombré de débris de toutes sortes, d'étoupes, de peaux, de peintures, de morceaux de tôle, de boue, envahi d'étrangers ingénieurs et ouvriers. Des câbles, des tuyaux partout. On soude, on découpe au chalumeau dans le fracas des marteaux et des compresseurs. Bongoba vient me dire au revoir. Il a terminé son temps. Il part pour Fécamp prendre contact avec l'armateur, l'inscription maritime, et attendre le retour du Damoclès. Wilsdorf est toujours en mer de Barents. Bongoba est un peu gris, fallait arroser ça avec les copains, et veut absolument trinquer avec moi. Je vais chercher une bouteille de vin au carré. Faut rigoler, capitaine. Il ne m'appelle pas docteur. Faut rigoler. Et il rit aux éclats, un rire joyeux. Et plein de vin. Le 29 décembre, je reçois un télégramme à mon nom, portant pour toute adresse « Marine française ». C'est l'amirauté qui me l'a fait suivre, après quelques recherches. Zano, beaucoup malade, peut-être mourir, vient féliciter Fuong. Suivez le nom d'une petite rue derrière la gare de Lyon. Zano ? Mais oui, Jean, Jeannot, le prénom de Babour. Et Fuong était sa petite amie, pas très jolie, avec une voix criarde. Il avait failli la laisser tomber en 1950, quand il était rentré en France. Et puis, au dernier moment, à Saïgon, il avait sauté dans un car chinois, sans rien dire à personne, pour aller la rechercher sur le fleuve. Il avait loupé son bateau, évidemment, et ça avait fait toute une histoire avec la marine. C'est Wilsdorf qui arrangea le coup. Babour épousa la fille en vitesse pour pouvoir l'emmener avec lui par le bateau suivant. J'avais été son témoin à la mairie. Le soir même, je prends le train de nuit pour Paris. Félicité. C'est les 10 000 félicités. Un petit restaurant peint en rouge sang de bœuf. Fuong y travaille avec une demi-douzaine d'autres Vietnamiens qui doivent être plus ou moins ses parents. Elle a toujours sa voix de crécelle et malgré les années parle encore petit nègre. Cet imbécile de Babour n'a jamais fait l'effort de lui apprendre correctement le français. Lui, tout le temps casse mes couilles. Tapez-moi, regarde! Elle me montre de vieilles cicatrices et une dent qui lui manque. Fous la tête, boire tout son pognon, boire mon pognon aussi. Maintenant, lui foutre le camp l'hosto. C'est un flot de paroles véhémentes. Fuong a posé devant moi un bol de soupe chinoise, délicieuse, avec toutes les herbes de là-bas. Je lui demande comment elle a su que j'étais retournée dans la marine. Zano, dire-toi pas con, même chose, lui. Toi rempiler, lui et toi boire trop beaucoup, lui pleurer après voir toi, vouloir tout casser, lui beaucoup salaud. Elle se met tout à coup à renifler, les yeux pleins de larmes, et file vers la cuisine. Ses parents m'observent discrètement. Fuong revient les yeux secs avec une assiette de ban kun. Le vrai nom de Babour est Combour. Toi connaisses bien Combou, Zano, Combou. Mais je préfère lui garder le nom que je lui ai toujours donné. Babour a été ramassé ivre-mort sur le trottoir par une patrouille de police et conduit à l'hôpital Saint-Antoine. J'obtiens le chef du service au téléphone. Paraplégique. Perdu par l'eau de vie et les excès de tout genre, plus les séquelles d'un séjour en Extrême-Orient délabré, le foie, les reins, il ne tiendra plus longtemps. C'est fini pour lui. Des gens se hâtent dans les couloirs de béton, les escaliers. Fiong et moi, nous sommes pris et entraînés par ce courant. Lorsque j'aperçois Babour dans son lit de fer près d'une fenêtre, ma première impression est que le médecin de service n'a rien exagéré. Il fait très gris dehors. Et on a allumé ces affreuses lampes au néon qui donnent déjà un teint cadavérique à l'être le mieux portant. Babour, prostré, indifférent, regarde dans le vague. Quand il nous reconnaît, il fait un effort et marmonne quelque chose d'incompréhensible. Fiong s'empare de sa main et la presse en gémissant. Zano, Zano, oh Zano! Le médecin m'a permis d'apporter une demi-bouteille de vin. Au point où il en est, on fermera les yeux. Mais j'ai oublié le tire-bouchon. C'est défendu, vous faites pas prendre. Déclare tranquillement une vieille femme qui tricote au chevet d'un petit homme en pyjama de satin rouge. Puis, elle ouvre son sac et me tend un tire-bouchon. La main de Babour tremble tellement qu'il renverse un peu de vin. Nous trinquons et je lui porte un toast. À ta santé, à ton retour aux 10 000 félicités. Il me regarde intensément et je crains qu'il se mette à pleurer, mais il se reprend et secoue la tête. Le vin lui donne un peu de vie. Il se redresse, s'agite. Nous, on a été des hommes, hein? Putain, on a été des hommes, hein? Hein? C'est à peine articulé. La parole est aussi paralysée chez lui. Je hoche la tête. Il se laisse aller en arrière, ferme les yeux. Des larmes coulent enfin sur ses joues mal rasées. Oui, tu as été un homme, mon vieux Babour, mon vieux Combourg. Il y a longtemps, là-bas, sur le fleuve. J'en atteste. Tu as été un bon marin, un bon soldat. Et c'est déjà beaucoup parce que... On parle, c'est très joli, mais quand les balles sifflent, claquent, pour être plus exact, nul ne sait ce qu'il va trouver en lui. Tu as été brave, et un matin, sur l'appontement, tu nous as donné à tous une leçon. Ce matin-là était aussi pur que s'il n'y avait pas la guerre. Il faisait encore frais. Cuc avait préparé un tas de bonnes choses que nous dévorions en les arrosant d'un vin de l'intendance que Babour avait déniché, Dieu sait où. Meilleur que sa putain de bière. Le clairon Beauchot n'était plus avec nous. Notre retour avait été moins glorieux qu'en son temps. Et pourtant, nous étions heureux. La patrouille de nuit avait été un succès. Nous avions récupéré quelques armes et fait un prisonnier, un agent de liaison avec une sacoche bourrée de renseignements. Dans l'échauffouré, il avait mordu un matelot vietnamien au mollet. Par la suite, il avait deux fois essayé de sauter dans le fleuve et on l'avait ficelé pour avoir la paix. Il avait dû prendre quelques mauvais coups par la même occasion. Il gisait au fond d'un des sampans, farouche et muet. Les mets pimentés de Cuc, le vin, la fatigue, la joie nous tenaient dans un état d'euphorie. On riait en racontant nos émotions de la nuit. Monsieur Dégouzy ronronnait, Wilsdorf lui grattait la tête. Il a une mine d'or dans sa sacoche, il doit avoir pas mal à raconter aussi, dit quelqu'un. On riait, on approuvait, on était heureux. C'est alors que Babour s'écria la bouche pleine. Putain, c'est déjà pas rigolo d'être taulard si en plus on doit trahir ses potes. Il se leva et ajouta avec défi. Moi je sais, j'ai fait de la tôle. « Mieux vaut crever. » Wilsdorf était au courant. C'était inscrit dans son livret militaire. Il avait volé, emprunté, dans la caisse de son boucher de picpus. Mais nous l'ignorions. Babour nous tourna le dos et marcha jusqu'au bord de l'appontement. Il sauta dans le sampan et ouvrit son couteau à cran d'arrêt. Le prisonnier, impuissant, eut un sursaut de bête. Pendant un instant, on put lire dans ses yeux une terreur fantastique. Babour, sans se démonter, le retourna d'une main comme un paquet et trancha les liens. Puis, il l'aida à escalader l'appontement et l'installa sur un tabouret libre, à côté de moi. Le pauvre diable, encore tout ahuri, frottait ses mains ankylosées pour rétablir la circulation. Il était si drôle que nous ne pûmes nous empêcher de rire. Babour, d'abord furieux, finit par être gagné par l'hilarité générale. « Allez, bois et mange, petit, c'est moi qui régale », dit-il, en lui donnant une paire de baguettes et un verre de vin. Il y avait la fatigue, le vin, la joie de vivre, d'être vivant, quand on avait quand même essuyé quelques méchants coups de feu pendant la nuit. On se sentait plein d'affection les uns pour les autres, pour l'humanité. Le petit prisonnier, après avoir un peu hésité, mangeait de bon appétit et cela nous réjouissait. « Ça me ferait mal de le livrer à ces crabes du deuxième bureau !» grogna encore Babour. Comme nous tous, il avait pris le tic de Wilsdorf. Wilsdorf n'avait rien dit jusque-là. Il observait tout à tour Babour et le prisonnier, l'œil rieur, les pattes doigts plissées. « Le contenu de la sacoche devrait leur suffire » lâcha-t-il nonchalamment. Babour réagit aussitôt. « Putain, vous croyez qu'on pourrait ? Putain !»« C'est vous qui l'avez attrapé, gardez-le, mais attention, hein, pas question qu'il saute encore à l'eau, c'est votre responsabilité. » Si ça marche, dans 15 jours, on l'enrôlera régulièrement. Je ne pense pas qu'il retourne de l'autre côté. Ils doivent le prendre pour un traître. Putain ! Et Babour asséna une énorme claque enthousiaste sur le dos de son protégé, qui sauta en l'air de frousse. Tote l'âme, petit, bois ton pinard. C'est pas toujours que t'en auras dû comme ça. Le petit prisonnier nous fixait de ses yeux, obliques, étroits, impassibles. Comme ceux d'un chat, comme ceux de Monsieur Dégouzy. Je raccompagne Fionc en taxi aux 10 000 félicités. La nuit est tombée. Il pleut, la rue est noire et déserte. Seuls brillent les deux globes qui encadrent la porte du restaurant et la vitrine embuée derrière laquelle on devine les clients. Fionc est restée silencieuse pendant tout le trajet. Elle ouvre la portière et demande « Toi, manger ?» Je secoue la tête. Elle sort du taxi mais garde la porte ouverte et se penche vers moi. « Lui, bientôt chète, hein ?»« Oui, il va mourir. » Elle dit encore quelque chose, très bas, un juron vietnamien, je crois. Je n'en suis pas sûre parce qu'à ce moment, le passage d'un train couvre ses paroles. Elle claque la portière, part en courant sous la pluie, que j'entends crépiter sur le toit. Je me fais déposer devant une brasserie des Champs-Élysées. Il pleut toujours. Le vent d'ouest s'engouffre, dans l'avenue étoilée des illuminations de Noël, fait battre les stores des terrasses de café. Il a traversé la moitié de la France, mais il sent encore un peu la mer. Il doit y avoir une belle dépression au large de l'Irlande. Je commande une bière. À travers les vitres couvertes des réclames du réveillon, je vois les gens courir dans les bourrasques. J'observe mes voisins. Comment certains d'entre eux peuvent-ils rire avec la mort lisiblement inscrite sur leur visage? Un homme passe de table en table proposant des billets de loterie. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance! Pour attirer l'attention, il fait claquer ses liasses contre sa paume, comme les bambous des petits marchands ambulants de Tanjung Priok. Des jeunes, serrés autour d'un jukebox, écoutent la fervente rengaine d'une chanteuse américaine. Je lis les journaux. Phnom Penh. Le blocus des Khmers rouges tient. Les Américains ont organisé un pont aérien pour ravitailler la ville. L'aérodrome a été touché 2 fois. Par des roquettes. Saïgon, le poste de Ban Ho sur les plateaux montagnards, au nord de Ban Met Tuo, a été abandonné par l'armée sud-vietnamienne après de durs combats. Je connais Ban Ho. Il y avait là, autrefois, une tribu de Jorai très intéressante, moins farouche que Noma. Un singe m'y avait fauché ma montre que j'avais laissée sur un tronc d'arbre pour me baigner dans le torrent. Bombe dans un pub de Londonderry. 7 morts. Crise de l'énergie. Inquiétude sur le sort d'otages détenus par un groupe palestinien. Mon angoisse est là. tapis, quelque part en moi, qui attend. J'aimerais que le bateau soit déjà à la mer. Babour est mort le 3 janvier, tôt le matin, avant la ronde des infirmières. Deux femmes en larmes sortent de la morgue. Il me faut pousser Fiong pour la faire entrer. Le garçon des morts tire un grand tiroir métallique et retrousse le drap qui recouvre le corps. Il fait froid. Combourg me paraît calme et beau sous l'éclat du néon. Ses yeux sont fermés, mais une des paupières s'est légèrement relevée. Fiong, toute grise, l'embrasse sur le front. Le garçon retire du tiroir un paquet contenant les chaussures, le pantalon, la veste souillée de boue sèche et les derniers petits trésors du mort. Un stylo à billes, des papiers, une photo abîmée de son sampan avec l'appontement et la cahute du marchand de soupe à l'arrière-plan. Il faut signer là. C'est le reçu de l'administration. Fiong se laisse guider. Elle écrit laborieusement son nom. Le garçon rabat le drap. L'arête du nez se dessine en relief et repousse le tiroir qui se verrouille avec un bruit sec. Je ne peux rester jusqu'à l'enterrement. Il me faut retourner à Lorient. Il n'y aura que les Vietnamiens des 10 000 félicités pour accompagner mon ami jusqu'au cimetière. L'éole est toujours au bassin, plus sale, plus froid, plus encombré que jamais. Les ingénieurs et les ouvriers sont les maîtres partout. J'ai beaucoup de paperasserie à remplir. Il me faut renouveler mes stocks de médicaments pour la campagne de Terre-Neuve. J'apprends que notre vieux commandant n'est déjà plus à l'hôtel maritime. Il a été transporté d'urgence au centre de Villejuif. Le médecin-chef me passe un savon. Vous nous l'avez amené dans un drôle d'état. Il a déclaré avoir refusé de se laisser examiner, mais rien qu'à voir sa tête. Le vieux crabe m'a couvert autant qu'il a pu. Il a demandé de vous remettre ça. Un gros paquet, ses livres, ceux qu'il avait à bord. Il y a aussi une enveloppe contenant une courte lettre à mon intention. Je n'en ai plus besoin, gardez-les-en. Le « en » a été raturé, mais reste lisible. Les quelques mots qui suivent ne le sont pas. Ensuite, d'une main ferme, il a ajouté « merci ». La Bible est dans le paquet. Il n'a plus besoin d'elle non plus. Je participe à Bordeaux à une réunion avec les armateurs de grande pêche pour régler certaines modalités. J'y retrouve quelques-uns des capitaines rencontrés dans le Nord. Wilsdorf est sur la route du retour. Il annonce 470 tonnes de morue salée. Ce qui n'est pas mal. La mévente du poisson surgelé préoccupe tout le monde. Les armateurs sont pessimistes. Nous recevons notre nouveau commandant, pauvre officier des pêches qui espérait bien conserver le poste. Il nous arrive directement de la rue Royale. Je l'avais rencontré une ou deux fois à Haïphong en 1954. Il était midship à bord du porte-avions à Romanche. Il n'a pas trop changé. Moins de rondeurs, plus de méplats. Il a l'air bien, faudra le voir à l'œuvre. Le soir, dans ma cabine humide, quand hurle la sirène de l'arsenal et que cesse d'un seul coup le fracas des marteaux-piqueurs, un froid nouveau se mêle à ma vieille angoisse. La certitude de n'avoir été pour ce pauvre babour d'aucun secours me rend mal à l'aise. Ainsi, lors de notre rencontre dans la nuit, je n'ai fait que le décourager un peu plus qu'accélérer sa chute. J'en suis irritée contre lui et contre moi. Le chef m'emmène passer la fin de semaine chez lui, à Cogne-le-Vent. Chapitre 24, Saint-Pierre. Vous verrez, docteur, ils ont peut-être la tête encore plus dure que les bigoudins. L'enseigne me fait un clin d'œil et va chercher une bouteille de whisky. Il nous en verse une bonne rasade. Allez-y, chef, racontez. Les yeux du Mongol se plissent et il se met à rire silencieusement.
On a coupé une fois le cou d'un type là-bas.
Ah !
Interrompt l'enseigne. Je savais bien que ce serait encore une affreuse histoire. Vous ne savez rien du tout. Un type assez rigolo, mais un ivrogne. Il avait assassiné un vieux bonhomme à l'île aux chiens. Maintenant, on l'appelle l'île aux marins parce que le curé a trouvé que ça faisait mieux. Les brebis ne sont pas des chiens, ce sont des marins. Le rigolo avait coupé le vieux en morceaux. C'est dégoûtant. Il était ivre. Il faut dire qu'à l'époque, on vendait là-bas un torboyau qui rendait fou. Ça remonte au début du siècle. Aujourd'hui, vous verrez ce qu'on boit. Tous les meilleurs alcools du monde. Et pas cher. Le rigolo en question, nommé Neil, est jugé, condamné à mort par le tribunal. Très bien. Encore faudrait-il faire venir à Saint-Pierre les bois de justice et des Blair, l'exécuteur des hautes œuvres. Paris refuse. Peut-être que des Blair avaient trop de pain sur la planche. Le chef nous regarde, enchanté de son mot. Va-t-il falloir gracier Neil ? Non, un vieux scribe du ministère de la Justice découvre dans les archives qu'il y a une guillotine à la Martinique. On l'a fait expédier à Saint-Pierre avec un mot. Pour le bourreau, débrouillez-vous sur place et lisez la notice. Qui voudrait être bourreau ? Il faut un certain goût pour la chose. Personne. Même au détachement disciplinaire, même avec des promesses d'argent et de remise de peine. Le procureur finit par découvrir un marin pêcheur en tôle, un homme de France comme ils disent là-bas. Un ivrogne, voleur, racaille et compagnie, pourri de dettes. Il accepte pour 500 francs plus la liberté. Et il embauche comme assistant un de ses copains, qui ne vaut pas mieux que lui. Les bois arrivent de la Martinique, c'est une vieille machine qui date du citoyen Guillotin. Le bruit court qu'elle a servi pour Marie-Antoinette. Le couperet est retenu par une ficelle enroulée à un taquet, on déroule et clac, dit la notice explicative. Mieux vaut faire un essai quand même. Nos deux bourreaux amateurs attachent sur la planche à bascule un petit veau qui beugle comme s'il avait la colique. Ils larquent la ficelle, ça grince, clac. Décapité. Mais pas complètement. La tête de veau reste suspendue à un lambeau de chair au lieu de rouler dans le panier. Le procureur, un peu pâle, conseille à nos deux bougres de prendre leur couteau à morue la prochaine fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait du veau ? Demande l'enseigne, pratique. Coupé en morceaux pour la soupe des disciplinaires, il paraît qu'ils ont refusé de la manger. Pourtant, ils n'avaient pas de viande tous les jours. Vous me faites perdre le fil avec vos digressions. Servez-moi à boire parce que maintenant on arrive à l'aube du dernier jour. Herschmad, le chef boit. Verre de rhum, dernière chic, et on emmène Neil en voiture à cheval sur la grande place, où les deux imbéciles attendent avec leur appareil. Neil déclare qu'il est content d'avoir dilapidé en boisson les quelques sous que lui avait légué son père. L'aumônier lui présente un crucifix. Nos deux ahuris mettent un temps fou à le sangler sur la planche à bascule. Et puis, ils attendent, comme des idiots qu'ils sont. Le procureur leur fait des gestes discrets. Allez-y, allez-y. Ils ne comprennent rien. Neil a le cou tendu dans la lunette. Il gigote, il crache sa chic dans le panier devant lui et encourage. Vas-y donc, et ne me rate pas. Enfin, les deux abrutis retrouvent un peu de bon sens et larguent la ficelle. Ça grince, clac. Même chose que pour le veau. Heureusement, ils sont leurs couteaux à morue. Le procureur ne sent pas très bien, tout le monde pleure, la foule s'en va la tête basse. Même le docteur qui avait demandé le corps pour une leçon d'anatomie renonce à son projet. Neil va directement au cimetière. Le chef boit. Cela, c'est le prologue. Maintenant, voici l'histoire. Le bourreau amateur est libre et il a gagné 500 francs. Seulement, personne ne veut plus avoir affaire à lui. Personne ne lui parle, personne ne le regarde, c'est comme s'il n'existait pas. Il ne trouve plus de travail. Il traîne en ville comme une ombre et les yeux se détournent de lui. Quand il entre dans un bistrot, les ivrognes s'écartent et se taisent. Il peut boire, mais il ne peut pas payer. Personne ne veut de son argent. Il propose de rembourser ses dettes et chaque fois ses créanciers, sans dire un mot, lui présentent ses comptes avec écrit en gros « acquitté ». Personne ne veut de son argent, personne ne veut de lui. Il est seul, tout seul. Il a beau être complètement abruti, il comprend. Il demande son rapatriement en France. Et l'autre assistant demande encore l'enseigne. Il se saoulait toute la journée, tout seul. Comme on n'acceptait pas son argent non plus, il disait « c'est paradis ». Philosophe celui-là. Une nuit, il est tombé dans le bassin des goélettes. Pouf. Terre-Neuve. Et la bête fortune dans le nord. Des roches noires, partout. L'île aux vainqueurs. La passe de la Normandie. L'île aux pigeons. Le pilote nous attend près du phare du Petit Saint-Pierre. Deux chalutiers espagnols, qu'on appelle des bœufs, parce qu'ils se mettent à deux pour traîner le chalut, ancrés à couple dans la rade. L'équipage casse l'épaisse couche de glace qui les engonce. Un ciel pâle, d'une pureté froide, coupé en deux par la trace blanche d'un avion. L'air transparent et raréfié, sans la moindre particule de poussière, dilate le regard. L'île aux marins, son église et ses maisons grises sur la neige, l'île au massacre. Un chien noir aboie. Saint-Pierre, les collines blanches aux ombres bleutées, la ville rouge, jaune, verte, les dories tirées sur la grève. Nous accostons aux installations frigorifiques du Cap, à l'Aigle. Je livre mes blessés à l'hôpital et je rentre à pied par le chemin des écoliers. J'aime errer dans une ville inconnue, seule, le nez en l'air, la tête à l'aventure. Rue de la Liberté, rue Sadi Carnot, rue de la République, place du Général de Gaulle. C'est là que Nil a été décapité. Elle s'appelait alors place de l'Amiral Courbet. Le bar à choix gelé, la pointe au canon. Le nouveau port avec de grands chalutiers allemands, Bremen, et japonais, Osaka. Et en face, toujours l'église grise, le calvaire et les maisons abandonnées de l'île aux marins, l'île aux chiens, fermant l'horizon. Neklong est tombé, dernier bastion sur le fleuve avant Phnom Penh. Ce sera bientôt fini là-bas. Le chef et l'enseigne m'emmènent avec eux à la morue joyeuse. Nos pas crisent dans la neige. L'appel d'une corne de brume affole les cormorans. Un japonais appareille pour les bancs. Le phare palpite sur la colline de galanterie. Le néon rouge d'un bar sur le quai. Une morue coiffée d'un suroît tenant un verre dans ses nageoires. Le patron, gendarme au procès de Wilsdorf, venu rétablir l'ordre en 1965, a fait la connaissance de Madame, une Saint-Pierraise, pimpante comme un bonbon anglais. Son temps fini, il est revenu l'épouser. Il a un black bush irlandais de 12 ans d'âge, le petit Jésus en culotte de velours, annonce le chef. La salle est pleine, toutes les tables sont occupées. Nous restons au comptoir. Il veut vous parler de votre accusé, dit le chef dès la première tournée. Accusé ? Le gendarme, un colosse roux, un peu empâté, se gratte la tête. Ah, je l'ai revu il y a 2 ans, marin à bord de la Marie de Grâce. Il est arrivé ici avec toute une bande, je l'ai reconnu tout de suite à ses yeux. Au début j'ai pensé, c'est pas possible, mais c'était bien lui, j'ai fait ma petite enquête. Il a dansé avec madame, rien que des valses. Il l'a serré d'un peu près à mon goût. Madame baisse pudiquement la tête. Je le surveillais. Je ne sais pas s'il m'a reconnu, mais j'avais l'impression qu'il se fichait de moi. Dans ma situation, faut se méfier. Son chat en a profité pour faire sur le bar. Oui, monsieur, il a pissé sur le torchon qui me sert à essuyer les verres. La sale bête. Et le procès ? Demande l'enseigne. C'est très bien, monsieur. Sauf lui qui avait toujours l'air de rigoler, moi j'étais sûr qu'il serait guillotiné. Fusillé, dis-je. Non ? Guillotiné ? Il était civil, il leur avait envoyé sa démission après l'échec du putsch. Ils l'ont bien dit dans le réquisitoire. Des journalistes attendaient le verdict dehors. Ils ont pris des photos quand il est monté dans le fourgon pour la santé. J'ai gardé l'article, on me voyait très bien sur la photo. C'est une femme qui l'avait écrit. Il a passé devant moi avec son froid sourire de tueur comme un SS. Je ne sais quoi d'autre. Elle disait aussi qu'il aurait dû être guillotiné. Tout le monde le pensait. Un air de valse-musette sur l'électrophone. J'invite madame à danser.
Il était si charmant, murmure-t-elle dès qu'on s'est éloigné sur la piste. Et bien élevé, il s'est parlé aux femmes. J'ai bien vu qu'il avait un sentiment pour moi. Je ne peux m'empêcher de rire. Sur la Jeanne, avant chaque grande réception, les midshipmen glissaient une torche électrique d'un calibre adéquat dans la poche de leurs pantalons pour rester à la hauteur de notre réputation sans nous fatiguer, m'avait raconté Wilsdorf. Ces torches électriques étaient surnommées justement des sentiments. Ma cavalière danse avec beaucoup de décence et ne cherche pas à savoir si j'éprouve quelques sentiments pour elle. De toute façon, je sens dans mon dos l'œil du gendarme. L'année dernière, il n'est pas revenu me voir, soupire-t-elle en se rapprochant un peu. Si vous le rencontrez en mer, dites-lui que j'ai toujours la clé. Il comprendra, ajoute-t-elle dans un souffle. Je la regarde. Ses yeux n'expriment qu'innocence et pudeur. Au comptoir, l'enseigne écoute le gendarme. Dans le fourgon, en allant au tribunal, il a demandé à mon collègue, Fougou Ernest, s'il avait déjà assisté à une exécution capitale. On n'a pas le droit de leur parler, mais Fougou a sorti son paquet de cigarettes, lui en a offert une et a dit très vite « Faudra mieux vider votre vessie avant ». L'autre, après un moment, s'est mis à rire. « Merci, je m'en souviendrai ». Il répétait « C'est juste, c'est très juste ». Et il riait. Le Mongol lance son cri de guerre. « Yershmad !» Ce fut une nuit mémorable. Même les Japonais qui buvaient tranquillement leur saké dans un coin finirent par rallier au canon. Un ancien matelot de la corvette Mimosa, de la France libre, reconstitua la bataille de l'Atlantique sur le bar et se chamailla avec un Allemand qui appelait le grand amiral Dönitz. Ils se mirent d'accord pour torpiller un pétrolier de Black Bush et s'en partager le contenu. Il y eut des chants aussi à un moment. Espagnols, turcs, japonais. Le gendarme et madame resservent les verres, comme on amorce une pompe. Le grand amiral Dönitz a disparu. Il est dehors, dans un état de miséricorde, explique un vieux monsieur très digne, décoré de la Légion d'honneur. Ses yeux bleus d'eau semblent voir plus de choses qu'il n'en existe. Quelqu'un raconte le temps du whisky, quand les docks de Saint-Pierre étaient bourrés d'alcool destinés à pénétrer clandestinement aux États-Unis. Al Capone est venu une fois. Je l'ai vu avec son chapeau blanc. La corvette Mimosa s'imbibe doucement. Les Japonais refusent de participer à la bataille de la mer de Corail. Le vieux monsieur parle. Tempête et brume. On entendait la sirène de galanterie parce que le vent était au sud. Il y avait deux gangsters américains, là, à cette table. Leurs vedettes pleines d'alcool mouillé dans le bar à choix, à cause du temps. J'avais aidé au chargement et bu le fond des bouteilles cassées. J'étais tout jeune, je cuvais ma première ivresse, ici même, contre le bar. J'aurais dû être couché depuis longtemps. Il y avait aussi des marins espagnols avec une femme, et le vent qui hurlait dehors, et la sirène de galanterie. J'étais là, un peu ivre. Le patron, c'est le père de madame, l'avait bien vu. « Tu n'as pas honte, petit ?» Il m'avait donné du café. Et puis la porte s'est ouverte d'un seul coup, les gangsters ont sauté en l'air, la main dans leur poche revolver. Coïncidence, la porte s'ouvre à ce moment-là, et le grand amiral Dönitz refait surface. Pokriev Joachim de son vrai nom, second ingénieur mécanicien du chalutier Fogel. Il engage aussitôt la corvette Mimosa, qui donne sérieusement de la bande. Le gendarme et madame rétablissent l'ordre à coups de Black Bush. Le vieux monsieur reprend son histoire. La porte s'est ouverte, le vent. Un marin en ciré noir et en bottes est entré, tout mouillé comme s'il sortait de l'eau. Il s'avance jusqu'au milieu et retire son bonnet, tout mouillé aussi. L'eau faisait des sortes de serpents noirs sur le plancher, il faisait très froid soudain. Le marin ne disait rien, il se balançait comme s'il était étonné d'être là. Il avait l'air malade, son visage était blafard. Les deux gangsters aussi étaient devenus tout pâles et les Espagnols se taisaient dans leur coin. Dehors, la sirène de galanterie. Faut pas rester mouillé comme ça, dit le père de madame. Je vais vous prêter des effets secs. Non, non, répond le marin avec un mouvement de recul. Je dois partir, il m'attend. Vous allez attraper la crève. Le marin se contenta de sourire, mais il n'était pas plus gai pour ça. Il regarda l'heure au-dessus du bar et eut un frisson. En ce temps-là, il y avait une grosse pendule en marqueterie accrochée au mur, qui carillonnait comme Big Ben. Je crois qu'il n'était pas loin de minuit. Le marin s'approcha des Espagnols comme s'il voulait leur parler, puis recula et recommença le même manège avec les gangsters. Peut-être était-il ivre. Il avait l'air désespéré. Le père de madame remplit un grand verre de rhum et le marin leva vers lui un regard de gratitude. L'eau ruisselait toujours de ses cheveux sur ses joues et j'avais l'impression qu'il pleurait. Il était juste à côté de moi, horriblement pâle. Je sentais le froid salé de la mer. Il me regardait. Il murmura « On ne peut rien dire ». La pendule commença à sonner et il y eut comme une grande voix venue du dehors. Un appel ? Peut-être était-ce seulement le vent et la sirène de galanterie. Le marin me serra le poignet. Sa main était glacée. Il cria « On a le droit de rien dire, rien ! Il faut pourtant que tu saches, petit, il existe, il existe !» Il tomba, comme s'il avait été jeté par terre. Il était devenu encore plus pâle, la couleur de la mort. Je l'entendis gémir. « Voilà, je viens, je viens !» Il se releva et courut jusqu'à la porte. Il me regarda encore. « Il faut que tu saches, petit, il... » Et la grande voix de nouveau, peut-être le vent et la sirène de galanterie. Il y avait un homme dehors qui l'attendait. Les Espagnols l'ont bien vu par la fenêtre. Un grand bonhomme avec un grand ciré noir, sous le lampadaire, avec une ombre immense. Ils l'ont vu agripper le marin par l'épaule et partir en courant dans la nuit. Où vont-ils ? Madre de Dios, Madre de Dios ! Ils faisaient des signes de croix, les Espagnols, et ils commandèrent du rhum. Les gangsters tout pâles se saoulèrent au whisky. Voilà ce que j'ai vu et entendu. J'étais un peu ivre, mais le père de madame en avait aussi vu et entendu. Le gendarme a l'idée lumineuse de servir une nouvelle tournée de Black Bush pour dissiper la morosité. « Tout ça, c'est des hallucinations, » affirme-t-il. « Ça arrive parfois, moi qui vous parle. » Les Japonais, qui de toute façon ne comprennent pas un mot de français, abandonnent discrètement. Quand ils ouvrent la porte, les mouettes du dehors attestent à grands cris leur foi dans la migration des âmes. Le grand amiral Dönitz a perdu la bataille de l'Atlantique, définitivement. Il cherche ses mots sans les trouver et ne peut articuler ceux qui arrivent jusqu'à ses lèvres. Quelques ratés, étranglés et plus rien. Son regard est devenu stupide. La corvette Mimosa l'observe avec orgueil et essaye de fêter la victoire, mais le verre lui échappe. Le gendarme à son poste donne des signes d'épuisement. Personne n'écoute son interminable discrétion. Madame est toujours aussi pimpante. Les Espagnols et les Turcs croassent dans leur coin. Le Mongol boit. Le vieux monsieur aux yeux bleus d'eau parle. Qu'a-t-il voulu dire ? Pourquoi moi ? Peut-être le message ne m'était-il pas destiné ? On ne l'a plus jamais revu, ni son compagnon. Qui était-il ? Il y avait quand même beaucoup de bateaux dans le port et on ne pouvait pas connaître tous les marins. Buvez encore un verre, cher ami, madame, s'il vous plaît. Deux doigts, sans glace. Madame s'exécute. Cette nuit-là, reprend-il, une goélette a fait naufrage à la pointe de Savoyard. On n'a pas retrouvé de survivants. Seulement un corps sur les galets de lance, un marin en ciré noir et en bottes, avec un bonnet. Son visage avait été raclé par les rochers, on ne pouvait pas le reconnaître, je le sais, parce que je l'ai vu. Le vieux monsieur, décoré de la Légion d'honneur, reste longtemps silencieux. Il boit son verre, d'un trait, le pose sur le bar et prend mon bras, avec décision. « Cher ami, » me demande-t-il très poliment, « croyez-vous qu'il existe ?» « Le diable ? Certainement !» répond le chef. « L'autre ? L'autre, ça, je ne sais pas. » Mais c'est terrible, terrible. Vint l'heure fatidique où le buveur s'enlise, rumine en lui-même, seul, où la barbe pousse et laisse un peu plus vieilli. Il faut rentrer. La nuit semble peuplée de choses invisibles et muettes, qui se déplacent sans bruit. Dans le silence. L'air glacé immobile, d'une immobilité absolue et définitive. seul le phare de galanterie clignote au loin sa mise en garde dans l'univers pétrifié. Attention, attention, attention. L'éole appareille et en boucle la passe à Henri. De grands cormorans noirs s'envolent du colombier en criant. La côte basse est blanche de Miquelon, les hautes falaises de Langlade, le ciel gris. La radio lance un bulletin météorologique spécial. Attention, attention, avis de tempête. Le Damoclès est arrivé sur les bancs. Il a mis en pêche dans le nord, le long des côtes du Labrador. Porte-avions et destroyers de la 7e flotte US dans le golfe du Siam pour l'évacuation des ressortissants américains du Cambodge. À Phnom Penh, des milliers de réfugiés affluent toujours. Ban Methuot est tombé. Le gouvernement de Saïgon a perdu le contrôle des plateaux montagnards. Offensive nord-vietnamienne sur Quang Tri et Hue. Notre vieux commandant est mort. Un message de l'amirauté nous l'apprend. Bande Saint-Pierre, bande Misaine, bande Crow, accord des goélettes, bande Georges, l'éole poursuit sa mission d'assistance. Il fait horriblement froid quand le vent est au nord-est. La température de l'eau est de moins 3 degrés et les embruns gèlent aussitôt. L'équipage est envoyé plusieurs fois sur le pont pour casser la glace qui nous alourdit dangereusement. Visite de courtoisie à Halifax, cocktail de l'officier des pêches. Banc à verre, chenal de l'aigle fin, queue du grand banc, platier, accord du bourrelet. Visite de courtoisie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, cocktail. Les Américains évacuent tout le personnel de leur ambassade à Phnom Penh par hélicoptère. Une compagnie de marine protège l'opération. À la télévision canadienne, on peut voir l'ambassadeur courir en riant, le drapeau étoilé roulé en boule dans un morceau de plastique sous le bras. Phnom Penh meurt. Offensive nord-vietnamienne, Quang Tri, Hue, Da Nang sont tombés sans combat. Moins 21 degrés, persistance des vents de nord-ouest, secs et froids, qui sentent la neige des immensités du Canada, l'appel de la forêt. Les eaux arctiques du chenal Laurentien sont d'un noir de charbon. La banquise est descendue, le banc Burgot, à l'ouest de Saint-Pierre, est sous la glace. Les chaluts gèlent et durcissent dès qu'on les hisse par la rampe arrière. La morue se cache. Les pêcheurs sont maussades, le stock invendu de poissons surgelés est énorme et les prix tombent. La vie est dure sur les bancs. Retraite, déroute de l'armée vietnamienne. Pour me faire plaisir, le chef a bricolé une antenne de télévision orientable par Gogno. Nous captons des émissions canadiennes et américaines. Le col des nuages, Da Nang, qu'il m'arrive encore d'appeler Touran, des enfants morts, des femmes mortes, des mouches bourdonnantes, des scènes de panique, de détresse, des visages, des mouches partout. Leur bourdonnement dans les micros brouille la voix des journalistes. Un père traîne derrière lui le corps de son enfant dans un sac de plastique. Il tient un parapluie noir, déchiré, pour se protéger du soleil. Il avance sur des dunes de sable couvertes de détritus comme une décharge publique. Il lâche son terrible paquet. Il tombe à genoux, il pleure. Des mouches. Je bois un verre de whisky que me tend mon ami le chef. « Personne ne nous aime, » dit le président Thieu. Un avion américain qui évacue vers les États-Unis des petits orphelins vietnamiens s'écrase dans un marécage, en bout de piste, à Thonson Nut. 250 enfants morts. Un soldat de Saïgon fouille les débris et jette un regard effrayant à la caméra qui l'épie. « Nous en reste encore d'autres que vous pourrez emporter en souvenir. » dit-il en anglais, comme s'il nous crachait au visage. Encore des mouches bourdonnantes. Je bois un whisky. Sur la passerelle, le froid saisit. La mer morte, noire, blanche, morte et glacée. Le soleil énorme, rouge, sans chaleur, sans rayon, mort, lui aussi. Deux bœufs portugais tirent leur chalut De petits hommes en jaune s'agitent. Les mouettes deviennent folles. Elles crient, elles sont milliers. Une cacophonie rauque d'une violence et d'une confusion désespérée. Elles plongent sur la poche du chalut qui émerge. On pourrait croire qu'elles se battent dans leur hâte d'arracher un peu de poisson. Les petits hommes titubent. Eux aussi ont l'air de se battre ou de défendre leur pêche contre l'avidité des poissons. Le soleil s'élargit encore. 600 ressortissants français et étrangers enfermés dans l'ambassade de France à Phnom Penh. La ville a été entièrement vidée de ses habitants par les Khmers rouges, même les blessés et les malades des hôpitaux. 3 millions de gens jetés sur les routes. Où vont-ils? Combien survivront? C'est le temps de la mousson du sud-ouest. Il fait chaud, mais la pluie tarde encore. Les essaims de mouches noires font entendre leur bourdonnement grave. Phnom Penh est morte. Il y a aussi là-bas une dernière question sur un tableau. Qu'est-ce que Dieu? Dur combat, Axion Lok. Les derniers soldats du sud se font tuer, pour rien, par désespoir. Des réfugiés toujours affluent dans Saïgon. Des morts, des blessés, des malades. Il n'y a pas assez de médecins. Et moi? Je suis ici. Bien sûr, j'ai été expulsé. Je me suis laissé expulser, pour être tout à fait honnête. Avec un peu d'insistance, j'aurais pu rester. Je pressentais la tragédie. J'ai dit avoir choisi mon peuple, et voici que je suis ici. Là-bas, dans la foule, retentissent des gémissements, des sanglots, des cris de peur et de douleur, des appels. Pierre suivait de loin. Un jour de blizzard, de poudrin, comme on dit ici, le Damoclès glisse, fantomatique et silencieux dans le port. Sa corne de brume retentit trois fois. Il disparaît complètement, effacé dans une rafale de neige qui étouffe tous les bruits. Au loin, la sirène de galanterie, comme la plainte d'une bête, une ombre grise, une étrave, des cris, des amarres lancées, un œil peint qui me regarde.
Pierre, mon vieux Pierre, mais qu'est-ce que tu fiches ici?
Je suis le médecin du bord. Ça va?
Adieu, vieil Europe, que le diable t'emporte. Dis donc, j'ai l'impression que tu les abandonnes un peu lorsqu'ils viennent. C'est maintenant qu'ils ont besoin de médecins.
J'ai été expulsé.
Ah. Et Maïli, tu l'as ramenée avec toi, tu l'as épousée?
Elle est morte. Ils l'ont assassinée. L'année dernière.
Excuse-moi. À bientôt, Pierre. Repasse-moi l'officier des pêches.